je cite, « cette aptitude à devenir une nation normale, qu'un intendant du roi, comme bien d'autres observateurs, après comme avant lui, avait noté dans un rapport à Versailles. Si la colonisation française, hélas, la plus faible d'alors, n'avait pas eu à se heurter à la plus forte, qui était l'anglaise, l'évolution de ces Canadiens, dont personne d'autre alors ne portait le nom, les aurait menés à la pleine existence nationale tout aussi sûrement, et pas tellement plus tard, que les 13 autres colonies plus populeuses qui devaient bientôt se baptiser les États-Unis. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser nostalgiquement cette toute petite société de quelques dizaines de milliers de pauvres gens qui, en 1760, eurent à subir dans la vallée du Saint-Laurent une domination étrangère destinée à demeurer. Comme toutes les autres colonies de l'époque, ce n'était encore que la dépendance d'une métropole, mais de sa métropole, naturelle et lointaine à la fois, et dont le pouvoir, une fois son œuvre accomplie, aurait cessé chez nous naturellement comme ailleurs, n'eût été cette rupture de continuité. Déjà, en effet, la distance, le climat, les contacts suivis avec les populations indiennes, les aventures continentales, avaient façonné une mentalité et un mode de vie de plus en plus différents de ceux de la mère patrie. Il y avait là en puissance une nation française, bien sûr, mais aussi de personnalités nord-américaines et tout aussi capables que ses voisines de vivre sa vie et d'être présente au monde. Et c'est cela que la défaite vint briser. Mais sans parvenir toutefois à en effacer le rêve. Un rêve assez fort, quoique d'ordinaire inavoué, pour nourrir jusqu'à nos jours une identité et une idée nationale que seule la faiblesse numérique et l'isolement total empêchèrent de se réaliser. Mais bientôt, le nombre se mit à augmenter. La revanche des berceaux vint le multiplier si prodigieusement qu'un grand historien, Toynbee, affirmait un jour, et si peu que j'ai pu vérifier, il ne faisait pas d'ironie, affirmait un jour qu'à son avis, lorsque sonnerait la trompette du jugement dernier, deux peuples seulement seraient sûrs d'y être encore. Les Chinois et nous. Tout le long, en tout cas, de ce cheminement laborieux de la survivance, comme nous disons chez nous, une absence, jusqu'à tout récemment, nous avait toujours paru singulièrement criante et assez incompréhensible, c'était celle de la France. Il y avait entre nous, depuis deux siècles, souligné plutôt qu'amoindri par la participation commune aux deux grandes guerres, un fossé d'ignorance et de méconnaissance que nos relations à peine épisodiques ne parvenaient qu'à creuser davantage. Aussi n'est-il pas excessif, du moins pas beaucoup, de dire « enfin de Gaulle vint ». Non pas seulement et même surtout pour ce vivre le Québec libre qui a été tellement discuté, cet accroc prophétique qui retentit tout autour du monde. Il faut se rappeler que bien avant, dès 1961, le général avait tenu à présider, avec le premier ministre Lesage, à de véritables retrouvailles entre la France et le Québec. Et sans doute poussé par sa passion pour le vieux pays et ce qu'il a produit de plus durable, il s'était donné la peine d'étudier le dossier de ce rejeton unique que nous sommes. Et ce dossier, je peux vous dire qu'il le connaît.